BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Caroline Delamarnière, merci d'être avec nous, présidente fondatrice de Capitalcom. Donc chaque année, vous faites, et vous venez là du reste, vous faites le bilan annuel des assemblées générales du CAC 40, mais pas seulement. Là, on va se focaliser sur le CAC 40, même si ce n'est pas complètement le CAC 40, hein, parce que vous vous êtes arrêté, évidemment, le temps d'analyser les données, celles qui se sont déroulées avant le 23 juin. Donc ça en fait combien ?
À peu près le trois quarts, en fait, oui. Un peu plus. Il nous en manque 6 exactement.
Oui. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un climat très particulier, hein, parce qu'il n'y a pas eu de vraie assemblée générale, il n'y a pas eu de petit four, on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est quand même un vrai tournant ce qui s'est passé, puis après on rentrera dans le détail.
En fait, oui. Edwige Chevrillon, c'est un tournant majeur. C'est-à-dire que suivant les assemblées générales depuis près de 15 ans, on peut vraiment dire que cette saison a marqué une inflexion. Absolument considérable dans l'évolution de cette histoire. Et les assemblées générales de l'an prochain ne seront pas les mêmes que celles qu'on a connues, mais ne seront pas les mêmes que celles qu'on a connues également cette année. Donc on peut vraiment parler d'un virage stratégique majeur pour ce grand rendez-vous annuel, paradoxe, qui est un moment de rencontre, en fait, hein, entre les dirigeants, leurs administrateurs et les actionnaires individuels.
Alors maintenant, ce qu'on peut dire, donc c'était pas fini en présentiel, comme on dit, mais les actionnaires étaient au rendez-vous. En fait, le taux de participation digitale à ces assemblées générales a été très important.
Oui, on a eu effectivement un taux de participation élevé, hein, même si on y reviendra peut-être un peu plus tard. Le temps d'échange avec les actionnaires s'est considérablement réduit, hein, puisque on est généralement sur une durée de trois quarts d'heure, une heure, et là, on est vraiment passé sur une durée très très restreinte. Hein.
Expédié, de combien ?
Expédié, 10 minutes.
10 minutes, ah oui, c'est vraiment ce qui s'appelle expédié.
Expédié.
Et pourquoi ? C'est une volonté finalement
En réalité, est-ce que c'est une volonté ? Moi, je pense qu'il faut quand même rappeler un petit peu le contexte. C'est vrai que le 25 mars, hein, l'ordonnance a été publiée autorisant les entreprises à tenir leurs assemblées générales sous un format digital. On n'avait jamais vu ça, on ne connaissait pas et les outils ne sont pas complètement appropriés pour ce type d'exercice. La première assemblée générale, c'est celle de Vivendi, elle s'est tenue le 20 avril. Mmh. Donc c'est vrai que les entreprises ont eu un mois pour repenser, revisiter, réorganiser leur assemblée générale sur le fond, sur la forme. Alors, en réponse à votre question, en réalité, on ne pouvait pas tenir des assemblées comme habituellement sur un créneau de 2h40, 2h50. Donc on a réduit en fait le temps des assemblées générales à 1h20, 1h30. Il y a quand même des obligations réglementaires et tout ça a été condensé, on va dire, sur 1h10. Donc le temps d'échange avec les actionnaires mécaniquement a été réduit effectivement à 10 minutes.
Qu'est-ce qui a changé puisque c'est un tournant ? En quoi ça a changé ?
Bah, ça a changé quand même la
relation. L'effet marquant, c'est quoi ?
Alors, l'effet marquant, c'est qu'on a quand même eu un focus du jamais vu sur un sujet, un seul, qui est un sujet d'actualité, qui est le Covid. Alors, il y a une saison qui a été marquée en deux temps. La première partie a été marquée plutôt sur la façon avec laquelle on aborde cette crise sanitaire, comment est-ce qu'on se met en ordre de marche, comment est-ce qu'on réagit, alors que la deuxième mi-temps, si je puis dire, à partir de mi-mai, c'est plutôt consacré à l'après-Covid. C'est-à-dire que maintenant qu'on avait acté le Covid, comment est-ce qu'on se prépare, en fait, à aborder, je dirais, l'après-crise sanitaire. Donc ça, c'est un changement profond. Changement profond aussi dans digital, ça ne s'est jamais passé. On n'a jamais eu d'Assemblée Générale parce que ce n'était pas autorisé.
100% digital.
Ouais. 100% digital, ça n'a jamais été autorisé. Donc ça, c'est du jamais vu, avec des outils qui ne sont pas particulièrement adapté parce que on a des problèmes de sécurisation qu'on ne connaissait pas, etc. Et puis sur le fond parce que du fait qu'on ait réduit en fait le temps de parole fait que on a des assemblées générales qui quelquefois ont pu paraître un peu squelettiques, hein. Squelettiques parce que très resserrées sur certains sujets de gouvernance autour de l'actualité, du contexte. Moi, je dirais que les dirigeants ont dû être à la fois des pompiers, des visionnaires, à la fois pompiers en expliquant aux actionnaires comment est-ce qu'ils réagissaient là, tout de suite, sur le moment, dans l'immédiateté. Et puis visionnaires aussi, parce que les actionnaires attendent des dirigeants qui puissent leur donner une boussole pour l'avenir.
On va revenir parce qu'à l'autre fait marquant, évidemment, ça a été la baisse, voire la suppression des dividendes, chose qui n'est jamais arrivée. Là non plus, c'était quand même un fait extraordinaire. La réduction de rémunération des dirigeants, là encore, il y a des questions. Juste, est-ce que la démocratie actionnariale, vous qui observez ça depuis 15 ans, vous l'avez rappelé, Caroline Delamarnière, est-ce qu'elle était au rendez-vous ? On s'est interrogé, notamment sur l'Assemblée générale de Lagardère, qui était une assemblée à haut risque, savoir si tout le monde avait pu s'exprimer, si les votes avaient été pris en compte. On sait qu'il a fallu une décision de l'AMF. Bref, est-ce que la démocratie actionnariale, elle a quand même fonctionné ?
Bon, il dit, je vais vous répondre de façon assez, assez cash. Elle a fonctionné autant que les entreprises ont pu le faire.
Ont voulu le faire.
Oui. Ou ont pu le faire, parce qu'on a quand même des outils digitaux qui ne sont pas du tout adaptés à cet exercice. Donc, elle a fonctionné autant qu'elles ont pu le faire, et puis dans certaines assemblées, un peu plus que dans d'autres aussi, hein, il faut le dire. Vous avez quand même des assemblées qui ont organisé des plateformes ad hoc avant l'Assemblée Générale, ou d'autres qui ont autorisé des questions pendant l'Assemblée Générale. C'est une toute petite minorité. La démocratie actionnelle a quand même pris un coup dans cette saison d'Assemblée Générale. Ouais. Et c'est vrai que nous, on a organisé quelques panels d'actionnaires qui ont plutôt ressenti de la frustration, de la tristesse aussi. Et vous rajoutez au fait, on y reviendra, que la politique de distribution du dividende a été complètement reconsidérée, ouais. Hein, puisque certaines ont annulé, voire réduit. Donc pour les actionnaires individuels, c'était compliqué.
On peut faire, non pas du name and shame, mais on va prendre peut-être sur le name plutôt, le plus positif. Quelles sont celles ou ceux qui ont joué le plus le jeu?
Moi, je dirais c'est celles quand même qui ont organisé, par exemple, les questions en séance.
Mais par exemple, c'est
Total, Engie, Capgemini. Vous avez aussi deux autres assemblées comme Air Liquide, Renault, qui ont organiser des plateformes ad hoc pour vraiment, vraiment favoriser. D'ailleurs, pour preuve, on a eu, par exemple, chez Air Liquide, plus de 350 questions qui sont remontées. Donc, on voit bien qu'il y a eu des efforts, ces 5-là en particulier, ont vraiment fait un effort en matière de démocratie actionnariale, en faisant remonter le plus de questions et en essayant vraiment de les traiter, dans les meilleures conditions possibles.
Ouais. Donc, on voit, mais peut-être, parce que ça pourra peut-être se pérenniser, ça coûte combien d'organiser une assemblée générale, vous le savez?
Oui, ça peut...
Normal, hein, j'entends.
Normal, ça peut aller jusqu'à 1,5 million de location de salles, d'organisation, parce qu'il y a toute la mobilisation du service. C'est un an de préparation, une assemblée générale. Hein. C'est très lourd. C'est un très, très gros boulot. Hein. Donc, revisiter tout ça en un mois, c'est pas rien. Alors, les assemblées générales en format web, c'est beaucoup, beaucoup moins lourd.
C'est beaucoup plus léger. C'est pour ça qu'il peut y avoir une tentation. Hein. En ayant des outils, en adaptant des outils. Hein, mais votre avis, il y a certaines entreprises qui vous ont dit, tiens, on va peut-être recommencer l'année prochaine?
Alors, il n'y en a aucune qui l'a prononcé telle qu'elle. Ouais. Il y en a plusieurs dirigeants ont dit qu'ils ne souhaitaient absolument pas reproduire ce format d'Assemblée Générale l'an prochain. Maintenant, on peut imaginer des systèmes mixtes, en fait. Hein. Ça, c'est possible.
Alors, justement, il y a aussi l'autre, ça, donc, des actionnaires qui n'étaient pas contents de ces AG digitales. Et puis, l'autre point, effectivement, de mécontentement, c'était la baisse des dividendes, voire suppression des dividendes. Vous avez fait une petite topographie chez CapitalCom. Il y en a combien qui ont supprimé, combien ont diminué, lesquels?
Alors, on a à peu près, d'abord, on a au total 3/4 des entreprises du CAC 40 qui ont effectivement soit supprimé, soit réduit. On a à peu près la moitié qui ont supprimé et l'autre moitié qui a réduit. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des impulsions de la part du gouvernement, de la BCE pour le secteur bancaire.
Il y a eu des prêts garantis par l'État avec donnant-donnant.
Oui. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu un effort massif de la part des entreprises pour contribuer à la situation. 3/4, c'est beaucoup. Alors pour les actionnaires individuels, c'est plus compliqué, vous voyez, pour les institutionnels, parce que eux-mêmes auraient eu besoin ou envie, en fait, d'avoir plus d'explications sur le sujet. Et c'est vrai que là, il y a eu beaucoup de frustration.
Oui. Baisse de rémunération des dirigeants. Alors, en même temps, on voit, il y a un chiffre qui était sorti, je me souviens plus de qui l'a sorti, qui montrait que la hausse des dirigeants, je crois que c'est le rapport Oxfam, bien sûr, était de plus de 60%, et alors que les hausses salariales étaient, grosso modo, de 20%. Donc, on voyait une espèce de hiatus, ça, quand même, assez significatif. Cela dit, il y en a qui ont baissé, si on revient à votre étude, le CAC 40... on voit qu'il y en a quand même. Alors, combien qui ont de dirigeants?
La moitié.
Qui ont baissé
leur
salaire.
Exactement, il y a 51%.
Fixe, variable,
C'est soit fixe, soit variable, soit uniquement exécutif, soit exécutif et membre du conseil d'administration. Donc, on a vraiment toutes les possibilités, quelques fois sur deux mois, quelques fois sur l'année. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de consensus sur cette politique de réduction. Mais la moitié, on fait un effort significatif en matière de baisse de rémunération des dirigeants. Ce qui n'est jamais vu, hein, c'est vraiment du jamais vu. Et c'est ça qu'on trouve intéressant, c'est que pour la première fois, il y a une contribution à l'effort, que ce soit sous la forme du dividende ou sous la forme des rémunérations, sous l'impulsion de la FEDMEDEF aussi, de la part des dirigeants.
Je reviens un instant sur la baisse ou la suppression des dividendes. Donc on sait bien que toutes les entreprises où l'État est actionnaire, il y a une demande express de l'État. Oui. Mais les autres, est-ce qu'il faut faire un distinguo peut-être avec les entreprises qui sont à capital familial? Est-ce qu'on peut faire une petite typologie?
Alors on n'a pas forcément regardé le lien avec les capitaux familiaux, on n'a pas forcément été frappé par un lien spécifique à ce niveau-là. Alors, souvent, quand il n'y a pas eu baisse de la politique de dividendes, de distribution, elle a été argumentée. Mmh. Hein, c'est-à-dire que l'entreprise a expliqué pourquoi est-ce que cette année en particulier, il choisissait de ne pas réduire le montant du dividende.
Toute dernière question, même si elle est importante, c'est 70% des entreprises qui ont abordé la raison d'être. On parle de la Convention citoyenne pour le climat, avec des propositions qui ont été faites. La RSE, c'était au cœur de ces débats, mais si je veux dire, on a dépassé la com' maintenant, c'est vraiment devenu une réalité.
Alors, moi, je crois, Edwige Ferrillon, qu'on peut vraiment considérer cette fois-ci, parce que l'heure est grave. Hein. Quand je parlais de visionnaire, vous savez que quasiment toutes les entreprises ont dû annuler leurs objectifs financiers. Donc, la seule boussole que l'on ait aujourd'hui, c'est la raison d'être.
Hein. Ah oui, d'accord.
C'est très important de l'avoir présent à l'esprit. Hein. On n'a plus d'objectifs financiers sur lesquels on peut se fonder, parce qu'on n'a tout simplement pas de visibilité. Donc, la raison d'être, c'est la boussole. Hein. Et c'est comme ça que ça a été présenté par des dirigeants comme Frédéric Oudéa, Stéphane Rouchat, Jean-Pierre Clamadieu, etc., qui ont vraiment posé ça. Par exemple, chez Engie, on a annoncé 19 nouveaux objectifs en matière de RSE. Chez Total, il y a eu un engagement de la part du conseil d'administration très fort en faveur de la neutralité carbone à horizon 2050. Par conséquent, on ne peut plus dire que la raison d'être soit cosmétique. Là, je crois que c'est vraiment une vraie boussole.
Comme quoi, c'est un vrai tournant. Merci beaucoup, ce cru des années des Assemblées Générales 2020. Merci beaucoup, Caroline Lamanière, d'avoir été avec nous, la patronne de Capital.com. Évidemment, je pense qu'on peut retrouver sur votre site toute votre étude. Dans un instant, on reviendra sur la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce qu'il y a des vraies propositions? On en parlera avec Jean Messia, le monsieur économie du Rassemblement national. Pardon.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est un peu le monsieur économie du Rassemblement National, c'est Jean Messia. Jean Messia, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes membre du bureau du Rassemblement National. Et justement, on avait assez envie de voir un peu quelle était la position du Rassemblement National sur les grands sujets qui nous préoccupent en ce moment. Qu'est-ce qui nous préoccupe? Bien sûr, bon, la crise du Covid, le traitement sanitaire, mais là, on est plus déjà pour nous, ici, sur la crise économique, la crise sociale. Est-ce que vous trouvez que le traitement qu'a eu le gouvernement, notamment que ce soit avec les PGE, les plans de solidarité, les fonds de soutien, fonds de soutien aux entreprises. Est-ce que vous dites c'est ce qu'il fallait faire et ils l'ont fait?
Oui.
Oui.
C'est-à-dire que effectivement, on a une crise économique sans précédent. Je crois que le mot du Premier ministre est assez emblématique et assez vrai. C'est-à-dire on risquait l'écroulement de l'économie française. Et donc face à cela, il fallait sortir un canadair budgétaire pour soulager effectivement les entreprises, mais aussi les salariés, puisque beaucoup ont été en chômage partiel. Donc je pense que globalement, c'est ça, ce qui devait être fait a été fait. Mais je dirais que c'est le plus facile, parce que si vous voulez arroser l'économie d'argent et notamment d'argent emprunté, puisque vous savez que la France n'a plus les moyens en raison de son taux d'endettement de financer en surfonds propres toutes ces politiques. La question maintenant stratégique qui va se poser à l'avenir, c'est comment tout ça va être remboursé, comment tout ça va être financé. Mais ça, c'est un autre problème. Mais sur le coup, effectivement, ce qui a été fait, enfin ce qui devait être fait.
Mais quoi qu'il en coûte, a été justifié.
Voilà. Alors après, on peut discuter, si vous voulez, dans une granularité un peu plus fine, de savoir si certains secteurs, on devait simplement reporter les charges ou complètement les annuler.
Oui.
Voilà, parce que c'est vrai que quand un secteur
sur
d'activité,
quand une activité a été
neutralisée pendant 3 mois, expliquer aux petits artisans, aux petits commerçants qu'ils vont pas payer les charges, c'est très bien. Mais si effectivement il faut les payer 3 ou 4 mois après, alors même qu'ils recommencent tout doucement à vivoter de leurs activités, c'est le coup de massue, si vous voulez. Donc on peut discuter, si vous voulez, certaines modalités, mais globalement, la logique est bonne.
Ce matin, je recevais Laurent Berger, la CFDT. Demain, il y a donc cette réunion à l'Élysée avec Emmanuel Macron à 16h sur le chômage partiel de longue durée, notamment sur la réforme de l'assurance chômage. Sur le traitement du chômage, justement, le chômage partiel, est-ce qu'il faut le maintenir? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il faut donner un autre tour de vis? C'est quoi votre position, Jean Messia?
Le chômage partiel, il faut le maintenir.
Ouais, mais avec les mêmes conditions du début, là, bon, il y a déjà eu un petit tour de vis, est-ce qu'il en faut un deuxième ou pas?
Question budgétaire. Je pense que c'est une question de réglage fin, si je puis me permettre. Oui. C'est-à-dire qu'il faut faire marcher ensemble la reprise progressive de l'activité avec, effectivement, des tours de vis progressifs parallèles du chômage partiel. On ne peut pas, comme ça, isoler la question du chômage partiel du contexte général de la croissance et de la reprise, parce que les deux sont liés.
Alors, le Rassemblement national est souvent assez anti-européen, on peut dire ça comme ça. Là, il y a eu un plan de relance. Il s'est passé, il y a un vrai tournant le 18 mai 2020, où il y a eu donc ce plan de relance un peu à la ségation de la France et de l'Allemagne. Du reste, aujourd'hui, Emmanuel Macron est aux Pays-Bas pour essayer de convaincre ce qu'on appelle un peu facilement les frugaux, donc les Néerlandais, les Danois, qu'il faut ce plan de relance européen. Est-ce que là, vous dites pour une fois, l'Europe, elle a été à la hauteur? On peut le dire, hein.
Alors,
on est dans un nouveau monde.
Le problème, si vous voulez, c'est que c'est le prêt à l'intégration de la Commission, c'est-à-dire c'est la Commission qui va emprunter les 750 milliards. C'est une logique assez dangereuse parce que c'est une logique qui est, enfin, la philosophie du plan de relance est une philosophie fédérale, alors même que l'Europe n'est pas une fédération. Et donc, si vous voulez, nous, on s'inquiète.
Il y a une clé de répartition.
Ben justement, la clé de répartition a des insuffisances patentes. C'est-à-dire que la clé de répartition, à la fois du financement et des bénéfices, repose entièrement sur la contribution, le poids de chacune des nations au budget européen.
Oui.
Je prends un exemple. La France, par exemple, participe, après le départ du Royaume-Uni, pour 15,5% au budget européen.
Oui.
Donc, en fait, elle va...
30 milliards, a priori. Hein,
elle va recevoir 39 milliards, mais elle va... financer le plan de relance à hauteur de 116, ce qui fait un gap, si je puis me permettre, de 77 milliards. Alors, donc, si vous voulez, le problème de ce plan, c'est que...
Je ne sais pas comment vous faites les calculs exactement, parce que justement, lorsqu'on regarde tel que ça a été présenté, hein, encore une fois, Jean Missière, les grands gagnants sont l'Italie, exactement. La France et l'Espagne.
Non. Pas la France.
Si, la France.
Non.
La France
les grands gagnants. Je peux vous dire. L'Italie, je connais les chiffres.
Ouais.
L'Italie, c'est 170. L'Italie, c'est 170 milliards. Mmh. L'Espagne, c'est 140 milliards. Et même un pays comme la Pologne, c'est 69 milliards. Pour donner un exemple, le bénéfice de ce plan de relance pour la Pologne représente 10% de son PIB. D'accord. Le bénéfice pour la France, c'est 1,6% du PIB. Donc vous voyez le décalage. Donc la France n'est pas la France est le deuxième.
Bon, moi c'est ce qui a été présenté en tous les cas par la Commission européenne.
Ce que je peux vous dire, c'est que la France, avec 11% de déficit public et 120% de dette sur PIB, est le deuxième contributeur au financement du plan de relance. Ouais. Ce que nous reprochons au plan de relance, d'abord
c'est l'initiative franco-allemande.
C'est son côté anational, bien sûr, parce que je pense qu'il eût fallu plutôt relancer au niveau national et du coup transformer la coordination des politique budgétaire qui s'est faite durant ces 30 dernières
années. Mais c'est ce qui se passe, il y a un plan, nous on va avoir un plan de relance, bon, il y a déjà été, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le président de la République qui dit qu'il y a 500 milliards qui ont été mis sur la table parce que c'est un peu additionné, un peu des choux et des carottes, mais il y a quand même une somme énorme. Le plan de relance, on ne le connaît pas encore, mais enfin il va être très important. En Allemagne, il est déjà sur les rails. Donc il y a déjà des plans nationaux.
Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que ces plans nationaux, d'abord, on ne sait pas comment ils s'articulent avec le plan européen. Et deuxièmement, je crois que c'était là l'occasion, parce que pendant 20 ans, on a parlé de la coordination des politiques budgétaires. Jusqu'à présent, la coordination des politiques budgétaires au sein de l'Union européenne s'est faite sur des démarches de rigueur budgétaire.
Oui.
Là, on avait effectivement la chance de transformer la logique de la rigueur pour une coordination des relances.
C'est
quelque chose de beaucoup plus positif.
C'est ce qui doit se passer, normalement.
Ben non, parce que justement, en faisant au plan fédéral un plan de 750 milliards, on privilégie la logique fédérale sur les logiques nationales. Et évidemment, nous sommes contre.
Mais alors, déjà, vous n'avez pas complètement répondu à ma question. Et c'est déjà le fait que l'Europe, justement, apporte une réponse. Enfin, est-ce que vous dites, l'Europe, elle a changé, cette crise économique, elle a fait qu'il y a une prise de conscience au niveau européen, qu'il faut agir.
Mais madame, l'Europe n'est jamais qu'une agrégation d'États.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire que c'est un plan de relance européen stricto sensu. D'abord parce que comment il est financé ce plan ? Soit il est financé par la dette et c'est in fine les nations européennes qui vont le rembourser, soit il est financé par l'emprunt et par les impôts et c'est la même chose. On va créer un impôt européen, mais l'impôt européen, ça n'est rien d'autre que payer les citoyens.
Justement, il y aura une émission de dette, d'obligation qui va être créée.
Donc ça accentue une logique fédérale, ce qui pose problème sur le plan politique, parce que en fait, les citoyens ont dit déjà en 2005 qu'ils étaient contre la dérive fédérale de l'Union européenne. Donc imposer par la fenêtre ce que les citoyens avaient refusé par référendum par la porte il y a une quinzaine d'années, ça ne me semble pas être très démocratique. sans préjudice de l'efficacité économique de ce plan qui, effectivement, aurait dû privilégier non pas la clé de répartition en fonction du budget, mais surtout à chacun selon ses besoins et à chacun selon ses moyens.
Ça va être sur l'intelligence artificielle, le digital, ça va être sur l'industrie, les retours de l'industrie. Bon, il y a déjà à peu près 3 axes qui ont été fixés sur ce plan de relance européen. Après, chacun va le décliner.
Tout à fait, mais je veux dire que, en fait, ce plan européen, quand on regarde un peu en détail, il a été cousu sur les intérêts allemands. Parce qu'en réalité, la France est un peu le dindon de la farce, passez-moi l'expression, de ce plan européen.
Parce que là, pour le coup, nous, l'industrie, on va en bénéficier.
Ce plan de relance européen, et je veux être parfaitement clair là-dessus, et tout le monde peut le vérifier, va coûter beaucoup plus à la France qu'il ne va lui rapporter. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les intérêts de la France en l'espèce. Et en l'espèce, les intérêts de la France ont été lésés. Voilà.
Est-ce qu'il faut rembourser la dette à un moment ou pas? Parce que tout le monde dit la dette qui a été contractée, la dette des États qui est au niveau de la Banque Centrale Européenne, on peut faire une dette perpétuelle, finalement on fait une espèce de write-off et puis personne ne paiera ou paiera in fine, mais c'est dans plusieurs générations. Quelle est votre position, Jean Messière?
Nous pensons, si vous
faut
voulez...
Faut rembourser ou faut pas rembourser?
Alors, nous pensons que le remboursement de la dette ne se fait pas d'après une logique comptable ni des tours de passe-passe et des artefacts financiers qui consistent à déplacer un chiffre d'une colonne à l'autre. Nous pensons que la résolution de l'endettement se trouve dans l'économie. Seule une économie robuste peut permettre de financer
et de rembourser
les autres projets.
Mais la question, c'est faut rembourser? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que vous dites, bah oui, il y a un engagement,
il faut le rembourser, mais il faut se donner les moyens pour le faire. Oui. Or, aujourd'hui, si vous voulez, la problématique de l'endettement, elle trouve sa source dans une sous-compétitivité de l'économie française qui, est victime d'abord d'une monnaie trop forte et d'une pression fiscale et sociale qui est considérable. Donc, tant qu'on n'a pas résolu ce problème de sous-compétitivité, et nous avons des propositions en la matière, on ne peut pas se dégager des surplus primaires nous rendant capables de rembourser et les intérêts et le capital.
Sur la question de l'euro, vous avez éclairci un peu votre position, parce qu'on sait qu'il y avait des positions assez différentes au sein même du reste du Rassemblement National. Est-ce que là, maintenant, il y a une seule doctrine?
Il y a une seule doctrine qui se résume de manière très simple. Nous ne sommes pas pour l'acharnement thérapeutique pour maintenir la zone euro en vie, et je pense que ce qui a été fait ces dernières années, c'est un peu ça. Et nous ne sommes pas non plus pour une sortie. C'est-à-dire que, après tout, le marché monétaire est un marché comme un autre. Les tenants du libéralisme, du laisser-faire, du laisser-passer, il est assez étonnant que, s'agissant du marché monétaire, ils sont pour un interventionnisme étatique fanatique. Or, nous disons, très bien, si vous êtes pour le laisser-faire sur tous les marchés, soyez pour le laisser-faire sur le marché monétaire. Donc, si l'euro doit survivre, que le marché décide, s'il doit se maintenir, que le marché décide aussi. Or là, j'ai l'impression que, vu la divergence des économies européennes de la zone euro depuis une vingtaine d'années, il y a de fortes chances que des pays comme l'Italie, par exemple, ou comme l'Espagne, eh bien, à un moment ou à un autre, puissent sortir. Il ne faut pas s'acharner à maintenir la zone euro.
Mais vous n'êtes pas pour le Frexit?
On n'est pas pour le Frexit.
Une dernière question, Jean-Michel, le temps passe vite, c'est l'intervention du président de la République où il a dit qu'il fallait une économie solidaire et souveraine. Là, vous vous êtes dit, il marche sur nos terres?
Vous savez, le président de la République est un spécialiste pour préempter des mots qui ne sont pas les siens, mais dont il sent très bien...
Souveraineté, c'est un mot qui existe.
Ce sont des mots qui parlent aux Français. Le mot souveraineté, le mot identité, le mot protection, le mot sécurité. Il a même été jusqu'à parler de sécessionnisme. Donc vous voyez que la phraséologie du président de la République est un emprunt sémantique à celle du Rassemblement National, sauf que le Rassemblement National...
Pas que, parce que c'est du français.
Oui, sauf que le Rassemblement National, c'était son diagnostic, alors que le président de la République, il prend la superficie sémantique, mais en réalité, par exemple, là, pour l'exemple que vous donnez, il rajoute européenne derrière. Donc la souveraineté européenne, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais ce qu'est la souveraineté française, mais la souveraineté européenne, je ne sais pas ce que ça veut
dire. Est-ce qu'il défend l'Europe?
Oui, mais l'Europe, si vous voulez, c'est un artefact. Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de souveraineté européenne, parce qu'il n'y a pas de démocratie européenne, il n'y a pas de président de la République européen. Donc tout ça est très abstrait.
Il y a un président du Conseil, il y a un président du Parlement.
Tout ça est très abstrait. En tout cas, pour le citoyen lambda, c'est très abstrait. Et je crois qu'on ne fait pas l'Europe ni dans le dos des peuples, ni encore moins contre les peuples.
Merci beaucoup, Jean Messière. Je rappelle donc le monsieur économie du Rassemblement National. Et ça tombe bien, dans un instant, on va parler souveraineté européenne avec quelqu'un qui défend beaucoup la Chine, c'est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Le débat continue sur Tour et c'est dans le RH.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Rebonjour, merci d'être là. Beaucoup, beaucoup d'actualités à voir avec vous. On va rappeler aussi que vous êtes président de la Fondation Leader pour la Paix. Mm-hmm. Et puis, vous publiez un livre qui s'appelle Shérif. Shérif, c'était le surnom qui était donné à René Monory. Vous en profitez pour dire que Shérif, c'est la synthèse historique et économique des relations internationales du futur. Vous l'avez cherché loin, mais enfin, vous l'avez quand même trouvé. Là-dessus, il y a pas mal de phrases assez fortes, je trouve. Vous parlez du grand basculement, vous dites le virus a en fait déclaré la troisième guerre froide. Mais peut-être d'abord une question, puisque c'est un petit clin d'œil à René Monory, on s'en souvient qu'il était autodidacte, qui était à Bercy, qui était un des meilleurs ministres de la Finance. Est-ce qu'il y a trop d'énarques à Bercy et dans le gouvernement?
Bon, je pense que oui, c'est bien d'avoir de la diversité de formation.
Mais vous-même, vous n'êtes pas énarque.
Non. Je pense qu'il faut quand même avoir, je crois, une diversité de l'origine des représentants politiques. Et c'est vrai que l'énarchie a existé. Ça s'est un peu amélioré, mais je me souviens qu'il y avait
des promotions. Oh, attendez, rappelez-moi, qu'est-ce qu'a fait le président de la République? Je crois qu'il est énarque.
Oui,
je pense que le Premier ministre est aussi énarque. Je pense qu'à Bercy, ils sont aussi énarques.
Oui.
Il y en a quand même...
Non, mais disons qu'il y a quand même une évolution qui est très lente. Mais c'est vrai qu'il faudrait plus de diversité. Je sais ce que c'est que l'énarchie. J'ai eu cette belle promotion Voltaire de l'ENA se déployer...
Sous vos yeux.
Sous mes yeux. Donc, c'est un sujet que je connais bien. Je pense qu'il faut choisir la diversité.
Il faut un remaniement, là, vous trouvez, pour un troisième souffle. Il faut qu'en tous les cas, c'est le message que vous envoyez au président.
Non, le président n'a pas besoin de mes messages, mais disons on a 500 jours entre maintenant et le début de la campagne présidentielle. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 500 jours? Comment on combat cette crise qui est devant nous, qui est en partie derrière et en partie devant? Et donc, quelles sont les grandes priorités? Qu'est-ce qu'on fait pour ce qui me paraît être l'essentiel? La cohésion sociale, la question de l'emploi des jeunes, la question de la montée de la pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait pour la relance économique? La question de la souveraineté. On s'est aperçu que le paracétamol était chinois. On s'est aperçu qu'on était très dépendant.
C'est complètement fou. Enfin,
voilà. Mais beaucoup de gens ont découvert ça. La Chine est la première économie du monde en parité de pouvoir d'achat déjà depuis 2014, mais les événements ont mis ça en valeur. Donc il faut relancer les entreprises, il va falloir soutenir les PME. On a besoin d'une dynamique économique forte. Et puis il y a la question de la décentralisation. Donc il y a des sujets qui sont très importants. Comment dans ces 500 jours on organise un plan de mobilisation nationale pour faire face?
Et donc il faut.
Et après il faut.
Donc il faut de nouveaux hommes.
Pas forcément de nouveaux hommes. Le Premier ministre a toutes les qualités pour mener une telle action. Ça c'est au président de la République de décider. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est de décider l'action et après de construire l'équipe qui va porter cette action.
Vous qui avez été à Matignon, est-ce que c'est compliqué quand on a une popularité? Ce qui n'était pas votre cas, hein, je crois.
Ça dépend des périodes.
Là, c'est sûr qu'on a un Premier ministre qui a une popularité largement supérieure à celle du président de la République. C'est un handicap?
C'est pas forcément très bon, quoi. Quand le numéro 2 est challenge le numéro 1, c'est jamais très très bon. On le voit d'ailleurs avec la Chine quand elle challenge les États-Unis, ils n'ont pas l'air d'apprécier. Donc c'est un sujet bien connu, ça s'appelle le piège de Thucydide. Donc c'est quelque chose qu'il faut être attentif. Mais j'ai vu que le Premier ministre était habile, puisqu'il a fait une déclaration hier, je crois, expliquant que s'il devait partir, c'était pas un problème. Donc il a montré qu'il laissait la liberté au président, ce qui est une bonne lecture de nos institutions.
Oui, enfin, en même temps, il a montré au président qu'il avait aussi sa liberté.
Absolument.
Vous regardez le verre à moitié vide, mais on peut regarder aussi de l'autre côté. Jean-Pierre Raffarin, merci de faire le lien, justement, parce que ce qui est intéressant en ce moment, c'est les rapports entre la Chine, les États-Unis, la Chine américaine, comme vous dites, et puis la Chine et l'Union européenne. Il y a un sommet hier qui s'est passé par, évidemment, en vidéoconférence, et qui s'est plutôt mal passé sur les négociations commerciales, sur Hong Kong, où les Chinois ont dit « Attendez, ça ne vous regarde pas », alors que l'Europe avait dit qu'il y avait quand même des problèmes de droits de l'homme. Et puis, bien sûr, sur l'Europe qui est un petit peu moins naïve. Déjà, pourquoi dites-vous, dans votre livre, le virus a déclaré une nouvelle guerre froide?
Parce qu'on a vu que la tension avec les États-Unis, entre les États-Unis et la Chine, était à l'occasion de ce virus extraordinairement brutale et violente. Mmh. Quand vous pensez que les États-Unis se sont retirés de l'OMS, c'est-à-dire de l'organisme multilatéral qui était chargé de gérer la crise.
L'Organisation mondiale de la santé.
Vous vous souvenez quand il y a eu la crise financière 2010,
parce que
la Chine, et parce qu'ils sont en désaccord avec la Chine. Vous vous souvenez qu'en 2008-2010, Nicolas Sarkozy avait fait un G20 des finances, où il avait mobilisé la communauté internationale pour qu'il y ait une réponse mondiale à une crise mondiale. Là, nous avons une pandémie mondiale avec une éradication nationale, chacun dans son coin. Le seul espoir qui était possible, c'était avec une organisation multilatérale d'avancer. Les États-Unis se retirent, sur ce la Chine prend plus de pouvoir, sur ce les désaccords augmentent, et M. Trump décide de faire de la Chine le thème de sa campagne électorale.
Oui, mais qui dirige l'OMS, c'est un Chinois. Justement,
non, c'est pas un Chinois. Non, c'est un Éthiopien. Non, c'est un Éthiopien.
L'OMS.
Donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est donc une personnalité d'origine africaine qui est accusée par les Américains d'être trop proche des Chinois. Ouais. Et naturellement, mais enfin, j'ai vu que la France et les Chinois avaient voté récemment la même résolution. Donc il y a quand même intérieur de l'OMS, un dialogue. Le fond de l'affaire, c'est que cette guerre qui a commencé par une guerre commerciale, avec les tarifs, puis qui a été une guerre technologique, avec notamment l'affaire Huawei, et qui maintenant est en train de devenir une guerre systémique, est en fait une guerre politique, parce que c'est un des sujets sur lesquels aux États-Unis les démocrates et les républicains sont assez d'accord, d'être anti-Chine. C'est quelque chose qui était assez fort aux États-Unis, parce que c'est le leadership des États-Unis qui est en cause. Et donc, pour moi, cette guerre va être durable. La bonne nouvelle, qui est le début d'une bonne nouvelle, parce qu'il faut voir dans les faits, oui, c'est que l'Europe semble se réveiller. Parce que le fond de l'affaire, c'est que le destin de l'Europe risquait d'être celui d'une balle de ping-pong qui un jour se prend un coup de raquette chinois, le lendemain un coup de raquette américain.
Qui disparaît entre deux plaquettes tectoniques.
Et qui, au fond, sort de l'histoire. Et donc, on semble voir par des déclarations, d'abord, je me souviens des déclarations du ministre des Affaires étrangères, Le Drian, du président, puis des dirigeants européens, sur ce qui était dans le communiqué d'hier après le dialogue avec les Chinois, sur la troisième voie. C'est-à-dire, dans ce match Chine-États-Unis, nous restons la voie européenne, une voie indépendante. Donc, il y a des désaccords avec la Chine et qu'il y a des désaccords avec les États-Unis.
Mais sur les négociations commerciales, il devait avoir un accord, le début d'un accord. Et là, en l'occurrence, les Chinois n'ont fait aucune avancée. Ça veut dire quand même qu'une forme de. Marché pour eux, l'Europe, c'est rien d'autre.
C'est une discussion qui est engagée, qui est très difficile sur les investissements.
Il n'y a aucune avancée du côté chinois.
Ça n'avance pas comme les voudraient les Européens, mais ce qui est très important, c'est que les Européens ont l'air de se rassembler. Parce que vous savez que en Chine, par exemple dans l'automobile, quel est le principal concurrent des Français ? Ce sont les Allemands. Et c'est très souvent la question. Je me souviens, quand il y avait eu des problèmes sur le photovoltaïque en Chine, les Chinois avaient pris des rétorsions contre qui ? Alors que le photovoltaïque était allemand, ils s'attaquaient au cognac français. Donc c'est un des sujets très importants, c'est de faire en sorte que l'Europe ait une position commune. Quand la France et l'Allemagne sont d'accord, ça pèse en Chine. Quand la France et l'Allemagne sont en désaccord, nous ne sommes que des spectateurs de l'histoire et souvent de l'économie.
Mais est-ce que vous diriez que l'ère de la naïveté est un peu derrière nous, pour les Européens, en tout cas c'est
déclarations
de Thierry Breton, Margaret Vestager, mais...
J'espère que l'Europe comprend que c'est dans son union, son unité. De ce point de vue-là, le mérite en revient quand même à Emmanuel Macron, qui a reçu Xi Jinping en mars l'année dernière, et qui reçoit Xi Jinping avec Mme Merkel et avec M. Juncker dans son bureau, et qui montre bien que dans une visite bilatérale France-Chine, l'Europe compte. Et Mme Merkel et M. Macron ensemble face aux Chinois. Et je vous assure, ça a eu un impact fort sur la Chine. Les Chinois, ils travaillent avec l'idée du rapport de force. Quand on est divisé, on est spectateur. Moi, toute ma bataille, c'est un, de faire en sorte qu'on comprenne mieux la Chine, parce que la civilisation chinoise est très compliquée. Et qu'on comprenne bien que pour les grandes entreprises françaises, la Chine, c'est un marché impératif. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pro-chinois, ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec les Chinois, mais ça veut dire qu'il faut un rapport de force. Et ce rapport de force, c'est d'abord l'entente franco-allemande. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'accord franco-allemand est en train d'avancer. Et cette idée d'une troisième voie, de ne pas se laisser emprisonner par ce front à deux, États-Unis, Chine de se dire, il y a une troisième voie, qui est la voie européenne, qui a ses valeurs, qui a ça. Eh bien, je pense que ça, c'est la bonne ligne. C'est la ligne de notre survie.
À condition de créer des champions européens, avec le message
qui vient passer.
Il y a un débat qui n'est pas technique, qui est essentiel, mais après, j'ai plein d'autres questions, bien sûr, j'en parlerai. Mais là, il y a la question des aides d'État. Parce que vous savez, est-ce que.
Oui.
Donc, nous, au sein de l'Union européenne, on ne peut pas avoir des aides d'État, sauf l'exception du Covid, etc. Mais la grande difficulté, c'est que vous avez des sociétés chinoises qui presque toutes bénéficient d'aides d'État sous des formes différentes. Et là, on va peut-être le prendre en compte. Est-ce que ça, c'est une vraie avancée?
C'est
trop compliqué à vos yeux?
Non, je pense que c'est une avancée. Je pense que ce qui est très important, au fond, c'est la réciprocité.
Ouais.
Ce que tu as le droit de faire chez moi, je dois avoir le droit de le faire chez toi.
Ouais.
Et donc, il faut accepter ce principe. Et là, ça patine encore.
Oui.
Mais plus la France et l'Allemagne seront d'accord et plus l'Europe sera soudée, plus on a des chances de gagner. Et ça, je crois... Parce que les Chinois, il ne faut pas les prendre pour des gens, eux, naïfs. Ils ne sont certainement pas naïfs. Ils sont aussi intelligents que les autres. Je me souviens toujours, Jacques Chirac, qui connaissait très bien la Chine, il me disait toujours, fais attention, ils sont aussi intelligents que nous, et comme ils travaillent beaucoup plus, ils vont vite. Donc il faut tenir, ils ont compris comment fonctionner. Mmh. Quand on est divisé, ils avancent. Quand on est rassemblé, ils tiennent compte de nous.
Sur la question de Huawei, savoir si la 5G, donc, est très important pour le développement de l'industrie, de l'économie française, notamment, c'est une manière peut-être de rattraper notre retard.
Oui.
Est-ce que pour vous, il y a un risque d'utiliser Huawei ou pas? Certains disent, il y a quand même les Chinois derrière.
Disons que...
Et d'autres disent...
Je pense que les Américains nous ont montré qu'ils nous écoutaient sans doute autant que les Chinois. Donc, je pense que de toute façon, au niveau international, sur ce sujet-là, il faut être extraordinairement vigilant. Et Thierry Breton me semble avoir la bonne position. Moi, je vous réponds dans la suite de ma démonstration sur le franco-allemand et l'Europe. Moi, peu importe qu'on soit pour ou contre Huawei, il faut qu'on ait la même position que les Allemands. Parce que si on est France-Allemagne ensemble, vis-à-vis de Huawei ou vis-à-vis d'Ericsson, on pourra peser. Parce que France-Allemagne ensemble, ça pèse lourd, ça a la valeur, la force quasiment d'un continent. Donc, quand on me dit, est-ce que vous êtes pour ou contre Huawei, je dis, moi, je suis la même position que les Allemands. Et ce que je souhaite, c'est que les Allemands et les Français aient sur les grands sujets les mêmes positions. C'est comme ça qu'on compte vis-à-vis des puissants. Quand vous voyez ce que font les États-Unis avec l'extraterritorialité, avec la puissance
du monde,
ils nous obligent à fermer les usines Total et PSA en Iran. On a une pression américaine extraordinairement forte. Mmh. On va avoir une pression chinoise extrêmement forte aussi. Donc, il nous faut nous rassembler. Si on est divisé, on sort de l'histoire. Et c'est vraiment, je trouve, la bonne nouvelle en ce moment, que sur le plan de relance, que sur les relations avec la Chine, que tout ça, que l'Europe a l'air de tracer sa troisième voie. Et si c'est ça, je pense que c'est la bonne voie pour exister dans un monde où, naturellement, il n'y a pas de naïveté et où chacun défend ses intérêts. Et il ne faut pas compter sur la Chine ni sur les États-Unis pour défendre les intérêts de l'Europe. Mmh. C'est notre business.
Est-ce que vous pensez que les Chinois nous ont caché vraiment la vérité sur ce qui s'est passé au niveau de ce coronavirus, de son émergence, de sa gestion? Parce qu'on a l'impression qu'on finalement on a fait tout comme les Chinois, on aurait mieux faire tout comme la Corée du Sud. Mais on s'est fait un peu berner par les Chinois. C'est un sentiment qu'on peut avoir.
Le président de la République, il est plus informé que nous pour le dire. Il a dit qu'on n'avait certainement pas été informé sur tout. Donc il y a certainement des choses qu'on ne sait pas. Je pense que ça.
Mais vous connaissez bien les Chinois, c'est pour ça que je pose la question.
Moi, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas informé. Par définition, on n'est pas informé. Mais c'est vrai qu'il semble qu'il y ait eu un certain nombre de sujets au démarrage de l'action qui ont posé problème. Mais de ce point de vue-là, je pense que ce qui a été décidé à l'OMS par la France et d'ailleurs la Chine, d'avoir une approche transnationale pour examiner tout ce qui s'est passé, je pense que c'est une bonne avancée. Et c'est en effet là où on a besoin du multilatéral, pour aller regarder ce qui s'est passé. Mais il faut qu'il y ait une approche multilatérale. C'est pas un pays, c'est pas les Américains qui vont expertiser la Chine, et c'est pas les Chinois qui vont expertiser les États-Unis. Si on veut une justice internationale, il faut des procédures internationales.
Non, si je vous pose cette question, il ne m'a pas échappé que vous n'étiez pas médecin, Jean-Pierre Raffarin, mais c'est qu'en fait, on voit que la gestion...
Ni malade, d'ailleurs.
La gestion du Covid a été... qui est assez mal géré en Chine, et que la population chinoise aussi, c'est un peu... en tous les cas, la popularité de Xi Jinping en a pris un grand coup. Et que du coup, il a besoin d'obtenir des résultats en termes de croissance économique et de conquête du monde. C'est surtout pour ça que je vous posais la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse que font beaucoup de sinologues?
Je ne crois pas que l'objectif
soit la
conquête du monde. Je pense que
mais est-ce qu'il a été affaibli, le président chinois?
Ça, c'est très difficile dans un pays où on ne tient pas compte forcément de l'expression démocratique, où il n'y a pas d'élection, il y a pas, donc c'est très difficile. On peut avoir des interprétations, mais dans un État comme l'État chinois, c'est très difficile d'apprécier l'opinion. Ce que je peux dire, c'est que les Chinois ont sorti 5 ou 600 millions de gens de la pauvreté, ils en ont à peu près autant à faire. Je pense que leur objectif aujourd'hui, c'est de continuer le développement de la Chine. Ce qu'ils n'acceptent pas, ce que nous a dit un dirigeant chinois de haut niveau tout récemment, nous n'acceptons pas que les États-Unis plafonnent notre développement. Ils veulent continuer leur développement parce que tant qu'ils auront au moins 600 millions à 700 millions de pauvres, ils se sentent fragiles. Donc ils veulent continuer leur développement. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils veulent forcément conquérir tout le monde. Je pense que ce qui compte, c'est que tant qu'ils ne sont pas arrêtés par un rapport de force, ils avancent. Les Chinois...
Donald Trump a compris le message.
Toute la pensée philosophique de Confucius, de tous les grands penseurs chinois, ça s'appelle le potentiel de situation. C'est tant que je ne suis pas arrêté, j'avance. On le sait. C'est pour ça que l'Europe n'a qu'une seule stratégie, c'est de se rassembler pour peser. Et sur l'affaire des télécommunications et la 5G, si vous avez une position franco-allemande, je vous dis, cette position, elle sera gagnante.
Oui, en même temps, la Chine n'a jamais voulu être hégémoniste sur l'ensemble du monde.
Jamais.
Sur sa région, mais jamais.
Elle n'a fait la guerre que quand elle a été attaquée, chez elle. Et nous-mêmes, nous avons fait la guerre. Chine, on a même fait la guerre de l'opium. Il faut dire que c'était les Anglais qui nous avaient emmenés dans cette triste affaire. Mais on n'est pas toujours brillant dans notre histoire non plus.
Barack Obama, on s'en souvient, et vous le rappelez dans votre livre, là, Shérif, que les États-Unis et la Chine vont dessiner ensemble le 21e siècle. Il se passe des incidents en ce moment même, où le déploiement militaire sans précédent des États-Unis dans la région Asie-Pacifique a commencé à agacer les Chinois, qui ont dit que ça augmentait le risque d'un incident entre les marines des deux pays, averti ce matin même un haut responsable chinois. Est-ce qu'il y a vraiment des tensions? Cette tension, elle s'exacerbe en ce moment?
Je pense que les tensions deviennent préoccupantes. Je pense qu'il faut faire très attention. La situation en mer de Chine est une situation pour les Chinois qui est essentielle. Vous savez, les Chinois font de l'affaire de Taïwan, grosso modo, l'affaire. Il y a des dirigeants militaires chinois qui ont dit que pour Taïwan, ils étaient prêts à faire la guerre. Donc il faut qu'on tienne compte de ça. Ce qui n'a pas été dit pour Hong Kong, ce qui n'a pas été dit pour d'autres problèmes qui ont marqué l'histoire de la Chine. Donc il faut faire très attention à ça. Et on a vu dans notre histoire mondiale des guerres qui démarraient par erreur, quelquefois par maladresse, pas toujours par stratégie. Et donc cette affaire-là est une affaire très importante. Et je suis très inquiet par un peu la violence verbale. Alors naturellement, Trump, avec ses tweets et sa violence anti-chinoise, naturellement fait monter les tensions. Et je pense que ça, c'est très dangereux, parce que les élections américaines arrivant, le thème... qui est un thème qui séduit un peu les démocrates. Oui. Hein, parce que les démocrates sont inquiets de voir la Chine prendre la première place du monde. Et donc, c'est vrai que c'est une question qui est très difficile. Et cette affaire peut mal tourner. Et c'est pour ça que le monde ne sera équilibré que si l'Europe est le troisième pied, le trépied, la troisième force. Et c'est ça, je pense, le scénario de paix du monde aujourd'hui. C'est une Europe éveillée qui, à la manière du général de Gaulle, parle aux deux. Parle aux États-Unis, parle à la Chine, et sur le marché chinois, et sur le marché américain. Qu'on ne nous demande pas de choisir entre les États-Unis et la Chine. Les entreprises françaises, ils ont besoin de la Chine, ils ont besoin des États-Unis. Si on nous demande de choisir, c'est qu'en fait, on nous cherche à nous affaiblir.
Nous, démocratie, a priori, on est plutôt du côté d'une démocratie américaine que du régime chinois. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est, historiquement, c'est quand même les Américains qui ont sauvé l'Europe. Donc, il y a quand même un lien qui est assez fort entre les États-Unis.
Mais notre histoire, le général de Gaulle et la Russie, par exemple. La Russie communiste, général de Gaulle, avait des relations. On parle à tout le monde. Il faut faire très attention que dans ce monde et cette économie, on a des alliés politiques, on a les alliances démocratiques qui sont très importantes, on a nos propres valeurs. Et on voit bien qu'avec la Chine, sur ce sujet, disons, du cercle de la société, nous sommes en désaccord et nous n'évoluons pas. Beaucoup de gens se sont trompés parmi tous ceux qui donnent des leçons, qui nous disaient qu'au fond, la Chine évoluerait comme les démocraties, que le marché donnerait la liberté à la politique. Et en fait, Xi Jinping le répète toujours, c'est le socialisme à caractéristiques chinoises, c'est le marxisme qui est la logique politique de la Chine. Et ça, c'est pas notre affaire et on n'aura pas d'accord potentiel là-dessus. Le leadership du Parti communiste, c'est pas notre pensée politique.
Mais à ce moment-là, à ce moment-là, se pose quand même la question des droits de l'homme. Regardez ce qui se passe à Hong Kong. Est-ce que c'est pas notre affaire ce qui se passe à Hong Kong ou pas?
Mais ça, je pense que le G7 s'est exprimé, la France s'est exprimée. On a à faire naturellement l'affirmation de nos convictions. Ça a été fait, mais
l'Union européenne a fait des remarques sur les droits de l'homme.
Bien sûr.
Et puis les Chinois, ils ont clairement dit c'est pas business.
Il y a des désaccords. Mais si vous voulez, dans les relations internationales, si vous ne parlez pas avec les gens avec lesquels vous êtes en désaccord, vous avez du mal à avancer. Donc il faut identifier les désaccords. Avec la Chine, il y a trois cercles. Il y a le cercle de la société et de la politique. Là, nous ne sommes pas d'accord. Il y a le cercle du marché. Là, nous avons beaucoup d'intérêts. Nous avons naturellement d'abord la souveraineté. Nous voulons reconquérir certaines souverainetés. On ne veut pas être trop dépendant. Donc, on a à reconquérir notre souveraineté et nous avons à défendre nos entreprises. Et donc là, ce que nous demandons, c'est la réciprocité. Donc là, je dirais qu'il y a un feu rouge pour la politique. Il y a un feu orange pour le marché. En revanche, pour ce qui est de la gouvernance, on voit bien aujourd'hui au niveau mondial que les Américains sont pour l'unilatéralisme et que les Chinois participent aux organisations. Ils participent à l'UNESCO quand les Américains sont partis. Ils participent à l'ONU, aux opérations de maintien de la paix. Donc, ils sont autour de la table et donc ils discutent. Il faut être autour de la table. Le multilatéralisme sans les États-Unis ou sans la Chine, c'est absurde. Il faut forcément parler avec eux. Mais parler avec eux, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Quand le général de Gaulle parlait avec Brejnev, il n'était pas d'accord avec Brejnev. Mais il parlait avec Brejnev parce que la paix du monde fait qu'on...
Un milliard quatre
d'habitants sur la planète, vous ne pouvez pas les ignorer. Il faut donc parler avec eux, exprimer les désaccords et puis voir les points de convergence. Et là, aujourd'hui, avec les Chinois, on a des forts points de divergence, mais on a des forts point d'intérêt commun.
Est-ce que, malgré tout, est-ce que vous parlez de multilatéralisme, de mondialisation? On a vu les chiffres là, qui viennent de tomber sur le commerce international, qui ont baissé 18,6%. Alors, ça aurait pu être pire, bien sûr, mais enfin, c'est quand même une chute significative. Ça, c'est l'OMC qui publie ces chiffres. On est au début de la fin de mondialisation, ou pas?
Je ne crois pas. Je crois qu'il va y avoir... si vous voulez... Je vois bien qu'il y a, y compris votre invité précédent, ceux qui voient la souveraineté exclusive et ceux qui voient la mondialisation exclusive. Moi, je vois les deux, c'est-à-dire la souveraineté pour une partie de la production, la souveraineté pour notre alimentation. Certains nous disent aujourd'hui qu'on a perdu notre indépendance industrielle. On peut en récupérer. Mais on n'a pas encore perdu notre indépendance alimentaire et agricole. Et donc là, il va falloir se défendre. Donc moi, je dis qu'il y a l'indépendance qui est très importante, et puis il y a la coopération. Et la coopération internationale, elle restera nécessaire. On a besoin de coopération pour créer de la richesse.
Merci.
Et pour faire la paix.
Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci Jean-Pierre Raffarin d'avoir été avec nous. Et donc, ce livre de la Fondation pour la prospective et l'innovation, Shérif, qu'on peut trouver soit en ligne, soit à l'acheter.
Voilà, en librairie.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'orage. On se retrouve demain. Demain, je recevrai en matinale Philippe Aguillon, qui est professeur au Collège de France. C'était un des grands pontes de l'économie. Et puis, bien sûr, on se retrouve dans l'orage. Bonne journée.